La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.
Nous sommes toujours le 27 août 2024, c'est la deuxième journée de la sixième édition de la REF à l'Hippodrome de Paris-Longchamp que nous sommes heureux de vous faire vivre en direct sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Nous le faisons vivre grâce aux invités aussi que nous recevons sur ce plateau et je suis ravi de recevoir Sandrine Rousseau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes députée écologiste et sociale de la 9e circonscription de Paris, ancienne numéro 2 et porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez fondé l'association d'entraide entre victimes de violences sexuelles En parler. Et dans le cadre de cette sixième édition de la REF, vous avez participé tout à l'heure au débat du pouvoir à la parité. On va en parler évidemment dans quelques instants. On va parler également de politique. Vous êtes quelqu'un qui intervenait régulièrement aussi dans les médias. C'est l'occasion aussi pour nous de vous faire rebondir sur l'actualité du moment. Juste un petit mot sur le débat qui s'est déroulé tout à l'heure. En ayant réellement comme ça une représentation équitable des hommes et des femmes dans tous les domaines de la société, quel qu'il soit, est-ce que ça va permettre quelque chose finalement, la parité ?
La justice.
La justice ?
Mais c'est essentiel.
Ouais.
Parce qu'en fait, la justice, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Quand on sait qu'une société est juste, c'est ce qui nous permet de vivre dans une société que l'on accepte, dont on accepte les codes et qui nous permet d'avancer collectivement. Donc en fait, c'est essentiel. Mmh. C'est vraiment essentiel. Et aujourd'hui, nous n'y sommes pas du tout.
Ouais. Et vous avez vu...
Nous avons progressé. Je ne dis pas le contraire.
On a progressé.
On a progressé, mais on n'y est pas.
Il y a eu une dissolution voulue par le chef de l'État après les élections européennes. Il se trouve qu'à l'issue des élections, la parité, justement, a reculé à l'Assemblée nationale. J'imagine que ça, vous le regrettez.
Mais c'est ce que disait Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise pour que la place des femmes soit restreinte. Et on le voit là à l'Assemblée nationale, qui est un lieu de pouvoir organisé par et pour les hommes. Hein. Je le redis parce que souvent, ça fait partie de cette invisibilité de la structure du pouvoir, de l'organisation du pouvoir. Je vais vous donner deux illustrations de cela. La première, c'est que en politique française, la figure du politique, c'est ce qu'on appelle un tribun, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'arranger les foules, de parler haut et fort, d'aller chercher le public, etc. C'est ça. En France, la démocratie et la figure emblématique de la démocratie, c'est ce tribun. Et le féminin de tribun, c'est tribune, c'est la table sur laquelle il s'appuie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de féminin qui permette de désigner une forme de leadership politique en France. Et puis la deuxième chose, c'est que sur une Assemblée nationale, qui a compris quand même des femmes exemplaires, des femmes incroyables, eh bien, dans tous les couloirs de l'Assemblée nationale, il n'y a que deux femmes représentées, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines d'hommes représentés. Ces deux femmes sont Louise Michel et Simone Veil, qui ont chacune un buste, qui est déjà... sont de petits bustes, mais elles ont un buste. Et aucune des deux n'a été parlementaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un sujet. Aucune des deux n'a été élue à l'Assemblée nationale. Donc en fait, on voit là que quand on parle de parité, il ne suffit pas d'avoir des quotas. Et en politique, on en a, et vous voyez bien que ça ne suffit pas. Il faut s'attacher, pour comprendre la mécanique, à toutes les représentations du pouvoir. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer ce matin. Les représentations du pouvoir restent aujourd'hui très masculines.
Sylvain Lévy-Valenzi est également à nos côtés, directeur des antennes de Radio Immo et Radio Territoria.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Sandrine Rousseau, parce que justement, j'ai envie de vous poser ces questions. Comment vous l'expliquez justement que dans notre pays, on est toujours aussi régressif dans une certaine mesure sur la représentation des femmes? On a cru, moi je fais partie d'une génération née dans les années 60, qui a franchement cru qu'à l'aube du 21e siècle, nous serions, j'allais même pas dire dans la parité pour exprimer la parité, mais dans une quelque chose d'assez normal, où l'expression du talent, qu'on soit un homme ou une femme, ne poserait plus de difficultés. On pensait, à l'instar finalement dans une certaine mesure de ce que disait dans ses écrits André Malraux, qu'on allait finalement entrer dans cette époque. Moi, ce que je vois, c'est une formidable régression. Est-ce que vous partagez ce constat dans une certaine mesure? Et comment vous expliquer qu'on puisse finalement toujours faire perdurer ces modèles finalement qui sont effectivement, et vous avez raison de le souligner, très masculins, avec une représentation féminine qui tarde finalement à être vraiment exprimée?
Je ne suis pas complètement sûre qu'on ait régressé. Je pense qu'on n'a pas avancé aussi vite qu'on aurait pu le faire. Je ne suis pas complètement sûre qu'on ait régressé. Et ce qui se passe aux États-Unis, pour moi, est assez emblématique de quelque chose. C'est qu'on voyait bien qu'il y avait Joe Biden, dont on pensait qu'il était irremplaçable, qu'il n'y avait pas d'autre solution au sein du Parti démocrate. Oui, mais c'est la raison pour laquelle il avait été réinvesti et c'est la raison pour laquelle il est resté aussi longtemps dans cette campagne, précisément parce qu'on le pensait irremplaçable. Et puis, finalement, il renonce et arrive cette figure de Kamala Harris, qui existait dans les sphères du pouvoir finalement, puisqu'elle était déjà vice-présidente des États-Unis, mais qui était très invisibilisée dans son action, dans sa personnalité, dans son leadership. Et puis elle arrive et ça crée une déflagration et quelque chose de l'ordre d'un soutien populaire réel. Alors on ne sait pas si elle va gagner ou pas, et peut-être même qu'elle ne gagnera pas, mais quand même, il s'est passé quelque chose dans le camp démocrate. Et moi, je trouve que c'est très emblématique de ce qui se passe quand on parle de pouvoir féminin, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que voilà, on a des situations qui doivent perdurer parce que c'est comme ça, parce qu'on voit vraiment pas comment ça pourrait fonctionner, on voit vraiment pas de personnalité qui pourrait remplacer, etc. Et puis quelque chose se passe, ces personnalités arrivent et ça change la donne. Et en fait, pour moi, il y a vraiment besoin aujourd'hui de déverrouiller le pouvoir et de lui enlever ses codes à ce point-là masculin. Et quand je dis ça, parce que ça fait partie des questions qu'on me renvoie souvent, il se peut qu'il y ait des femmes qui exercent le pouvoir avec les codes masculins. C'est très courant même en réalité.
Oui, absolument.
Dans les études féministes, on parle de syndrome de la Schtroumpfette. C'est-à-dire que quand il y a une femme, il y a une femme au milieu d'un parterre d'hommes, bah finalement, elle trouve sa place et elle trouve aussi un intérêt personnel à être comme ça, la seule dans un ensemble. Et elle peut très bien elle-même prendre pour elle et adopter tous les codes du pouvoir masculin. Donc en fait, c'est pas une question véritablement d'homme ou de femme, c'est une question de déconstruction des impensés du rapport au pouvoir.
C'est pas une opposition. Vous n'êtes pas là en train de dire finalement il y a une opposition entre les hommes et les femmes. Ce que vous demandez finalement, c'est qu'on est presque profondément une réflexion philosophique dans l'idée de cette déconstruction. Un peu comme Derrida l'avait énoncé dans la pensée finalement qu'a la dent dure, mais ça s'explique par les habitudes, par les traditions, par la faiblesse parfois qu'ont les institutions à faire évoluer. Est-ce que le salut viendra de la masse, du peuple? Est-ce qu'il y a un mouvement qui se crée? Est-ce que vous pensez-vous positivement qu'on a un mouvement qui nous amènerait finalement à ne plus réfléchir sur ces codes-là et à les, comme vous le disiez d'ailleurs très justement, à les déconstruire?
Moi, je pense que la société est très en avance là-dessus. Je pense que la jeunesse est très en avance. Je pense qu'on est déjà dans une évolution en réalité et qu'il y a un verrouillage, mais un verrouillage qui est presque comme un bouchon qui ne tient plus, quoi, qui est en train de sortir de la bouteille. Et ça, pour moi, c'est source de très grand espoir. Et je rappelle, parce qu'on oublie souvent, on trouve les féministes de chaque génération très pénibles, hein, ça c'est quand même à peu près une constante, mais quand on regarde les suffragettes par exemple, les suffragettes, donc c'était ces femmes qui ont réclamé le droit de vote.
Absolument.
Aujourd'hui, on considère que leur combat est absolument légitime, enfin que vraiment c'était incroyable. Je rappelle qu'il y en a qui sont mortes pour ce combat. C'est-à-dire qu'elles ont été enfermées dans des prisons, elles ont fait une grève de la faim, on les a gavées de force et certaines en sont mortes par étouffement.
Absolument.
Et ce qui a permis d'obtenir le droit de vote, c'est à la fois ce mouvement des suffragettes, mais aussi que dans l'ombre s'activaient des hommes qui soutenaient ce mouvement des suffragettes, qui étaient des patrons de presse ou des chefs d'entreprise, qui se sont appelés les suffragettes en miroir aux suffragettes, qui n'ont pas revendiqué la victoire, mais qui ont été des alliés réels et sincères dans cette cause. Et là, aujourd'hui, le cri que j'ai envie de lancer, l'appel que j'ai envie de lancer, c'est où sont les alliés sincères de cette cause qui, modestement, à leur place, aident à cette progression. Il y en a, je pense qu'il n'y en a pas assez, je pense que nous devrions en avoir beaucoup plus.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un point qui est très, vous savez qu'il y a un film qui avait été pris au début des suffragettes qui a filmé, vous savez, le fameux derby où une suffragette s'est lancée sur le champ de course, a été fauchée par les chevaux.
Oui.
Il faut se rappeler de cela parce que quand on contextualise, on se rend compte en fait à quel point ça a dû être difficile. Est-ce que vous pensez, vous, Un peu comme le gouvernement avec Schœlcher qui avait travaillé sur l'esclavage et l'abolition de l'esclavage, sur des thématiques qui sont aussi puissantes que quelque part c'est par le choc, par une certaine forme peut-être de confrontation ou de concours des circonstances. Vous disiez que parfois les féministes sont un peu pénibles. On ne vous a pas épargné, vous, Sandra de Rousseau.
Non, on ne peut pas dire ça, non.
Non, on ne vous a pas épargné du tout. Alors que finalement, on peut positionner le débat différemment sans forcément tomber dans des clichés, vous savez, les clichés, les poncifs ou les oppositions pour trouver une idée. Est-ce que vous disiez que les jeunes étaient prêts, qu'on a une jeunesse prête? Qu'est-ce qui, d'après vous, explique qu'on a une réticence, une résistance du pouvoir, des institutions à ce point?
Je pense que c'est multifactoriel, mais y a une chose qui me frappe, c'est à quel point la colère des femmes n'est pas légitime. La colère des femmes est jugée comme trop dérangeante et que ça va, vous pourriez exprimer les choses de manière très différente. Moi, c'est ce qu'on me reproche beaucoup. Et d'ailleurs, on me l'a reproché dans les couloirs de ce...
Ah oui.
dans les travées de ce forum. On m'a dit, oui, mais vous pourriez exprimer ce que vous exprimez avec moins de colère et je serais d'accord avec vous s'il y avait moins de colère. À quel moment, en fait... À quel moment on juge la colère de quelqu'un d'autre illégitime? C'est-à-dire que, pour moi, je pense que la première des alliances à faire, c'est d'entendre cette colère. Et d'entendre que ça n'est pas juste une revendication de salon de thé, mais que c'est véritablement de nos vies dont il s'agit. Quand on parle des violences sexuelles, c'est de nos vies dont il s'agit. Donc en fait, ce n'est pas juste une discussion polie avec une tasse de thé et quelques biscuits dans une coupelle. C'est véritablement de notre santé mentale, physique dont il s'agit. Donc en fait, oui, nous sommes en colère. Oui, nous sommes en colère. Et il faut l'entendre.
Tout à l'heure, vous parliez de déflagration autour de Kamala Harris.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y aurait pu y avoir une déflagration autour de Lucie Castet si elle avait été nommée première ministre par Emmanuel Macron?
Mais sans doute, de la même manière. Je pense qu'on l'a vu quand le nouveau Front populaire est arrivé en tête du deuxième tour des élections législatives.
Vous souteniez l'idée de Lucie Castet?
Oui, tout à fait. Quand on a vu quand le nouveau Front populaire est arrivé en tête du deuxième tour des législatives, ce qui quand même était une surprise, puisqu'on avait quand même peur que le RN l'emporte, donc ça a quand même été une surprise, ça a généré dans la population française une forme d'enthousiasme spontané, véritable. Les gens ont klaxonné, ils sont allés sur les places des villes, ils ont manifesté leur joie. Et en fait, ce mouvement-là, il faut aussi l'entendre, c'était un mouvement à ce moment-là, à la fois de soulagement, mais aussi d'espoir. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de doucher en ce moment.
Alors, et justement, l'incertitude... Alors, c'est unique depuis la Ve République, la naissance de la Ve République, le flou artistique qui règne dans nos institutions. C'est absolument incroyable.
Ouais.
On est un président qui, à ce point-là, résiste au mépris même de la Constitution à former un gouvernement. On pourrait même... Bon, je vais faire mon éditorialiste classique. On pourrait même penser à une forme d'autocratisme, finalement, ou de s'arc-bouté dans cette tour d'ivoire du pouvoir. Qu'est-ce que vous espérez, vous, Sandrine Rousseau, sur ce gouvernement qui est un être? Est-ce que vous pensez, finalement, que le président de la République choisira, finalement, la voie réellement du compromis? Il a fait comprendre, il a même fait passer dans la presse qu'il ne recevrait pas Jean-Luc Mélenchon, ni le Rassemblement national dans ses consultations. La première réaction que je voudrais que vous ayez, c'est est-ce que vous trouvez ça normal que finalement des forces politiques, d'où qu'elles viennent, et même si on n'est pas d'accord avec elles, ne soient pas consultées comme elles devraient peut-être l'être, dans la mesure où elles représentent quand même un volume d'électorat quand même non négligeable?
Je pense que Emmanuel Macron imagine de manière régulière et trop fréquente, que le peuple a tort et que lui a raison. Et en fait, ça nous pose une question, ça questionne la démocratie profondément. Puisque là,
absolument,
il y a eu des votes dont on peut juger le résultat mauvais pour nous. Bah, très bien, on n'est pas d'accord, très bien. Pour autant, le peuple s'est exprimé.
Alors,
et en fait, cette incapacité d'Emmanuel Macron à comprendre qu'il ne peut pas avoir raison contre le peuple, met en tension notre 5e République, notre Constitution et nos institutions comme le Parlement. Et moi, je lui en veux beaucoup, certes, évidemment, en tant que leader politique, mais aussi en tant que citoyenne, de nous mettre dans une situation de tension comme celle-ci, dans un moment où le Rassemblement national était proche du pouvoir, parce que je pense que ce qu'il génère, en fait, à la fin, c'est de la défiance vis-à-vis de la politique, c'est de la colère vis-à-vis des représentants politiques. Et on le sait, cette colère-là, quand elle s'exprime dans les urnes, peut prendre tous les chemins.
Qu'est-ce qui va sortir de tout cela ? Qu'est-ce que vous espérez dans les jours qui viennent ? Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux, vous, Sandrine ?
Et je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, que la colère est légitime et je pense qu'il faut entendre cette colère et du coup changer le mode de leadership politique. Pardon, je n'ai pas du tout entendu votre question.
Justement, rebondissons là-dessus. Quand vous dites changer le mode de leadership politique, est-ce que vous envisageriez, si demain vous en avez la possibilité, de changer peut-être, d'aller vers une 6e République ? De changer le mode de gestion du pouvoir avec un président omnipotent,
Je pense qu'il est inévitable de penser une réforme constitutionnelle. Je pense qu'elle devient inévitable. Il rend la réforme constitutionnelle inévitable. Alors, est-ce que c'est une 6e République ? Est-ce que c'est une réforme de la Constitution ? Bon, ça, c'est
vous seriez favorable à un régime plus parlementaire, en fait.
Moi, je suis absolument favorable à un régime plus parlementaire, plus proportionnel, où les territoires aient aussi plus de place, parce qu'on est dans un État français qui est extrêmement centralisé.
Vous n'avez pas peur du risque du Rassemblement national, justement, qui tirerait les bénéfices de ce type de...
Mais je pense que la 5e République n'a pas empêché la montée du Rassemblement national. Donc, en fait, ça n'est pas ça la garantie. Et au contraire, je pense même qu'on le voit avec ce président qui ne veut pas entendre et qui aussi, parfois, utilise la force contre les mouvements sociaux. Enfin, je pense qu'il faut qu'on le pose sur les gilets jaunes. Ça a été extrêmement flagrant. Dans cette situation de tension sociale extrême, je pense que la réforme institutionnelle est une manière aussi de canaliser les réflexions et de penser notre rapport dans une société de manière différente.
Aujourd'hui, à l'Assemblée, aucun bloc n'a la majorité. C'est le résultat de ces élections législatives. Pas plus que le nouveau Front populaire. Ce serait ingouvernable pour le nouveau Front populaire aussi, avec la perspective d'une motion de censure, quoi qu'il arrive.
Non, mais ça, j'ai toujours défendu cette position qu'il y a les Français qui se sont exprimés, qui ont donné un groupe qui est arrivé en tête, c'est le nouveau Front populaire. Ce que je ne comprends pas dans la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est pourquoi il ne nomme pas un ou une première ministre issue des rangs du nouveau Front populaire. Et puis, il se peut en effet qu'il y ait une motion de censure, puisque nous n'avons pas
de majorité
ni de députés en nombre suffisant. Donc, c'est possible qu'il y ait une motion de censure. C'est très possible.
Fort probable.
Mais quel est lieu ? Quel est lieu ?
Ah, ben, d'accord.
Et dans ces cas-là, c'est le parlementarisme qui s'exprime, c'est-à-dire que l'esprit de la démocratie est respecté, c'est un ou une première ministre du groupe arrivé en tête. Ensuite, il y a une motion de censure possiblement qui s'exprime. Eh bien, il y a la motion de censure et après, on réfléchit à d'autres solutions. Et en fait, le fait de priver les Français de leur vote premier, pour moi, c'est là qu'est l'erreur. L'erreur politique fondamentale, parce que c'est profondément abîmer cette idée que nous les représentons. Et ça, je veux dire, la démocratie, c'est comme la monnaie. Moi, je suis économiste, vous savez, la monnaie, elle fonctionne sur la confiance. Vous avez un bout de papier où il y a marqué 50 euros dessus, mais en fait, c'est un bout de papier. Donc, il faut que vous ayez confiance dans la valeur qu'a cette monnaie pour qu'elle puisse servir de monnaie. Eh bien, la démocratie, c'est pareil. Il faut avoir confiance dans la valeur qu'a cette démocratie pour pouvoir confier sa voix. Et aujourd'hui, je pense que nous abîmons l'idée que nous, élus du peuple, nous représentons le peuple. Et ça, c'est vraiment compliqué.
Ah, je suis parfaitement d'accord avec vous. D'ailleurs, ça explique parfois la défiance qu'a le peuple à l'égard de la classe politique, dont elle juge finalement, qu'elle juge largement, parfois incapable de faire face aux défis majeurs. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des colères. Alors, je me souviens de la phrase de Ségolène Royal qui disait qu'il peut y avoir des colères saines face à Nicolas Sarkozy. Mais vous avez un style, Sandrine Rousseau. Effectivement, vous êtes très rentre-dedans. Moi, je me souviens quand vous aviez tancé Éric Ciotti devant le siège. Je trouvais ça extraordinaire. C'est aussi un style que vous avez. Est-ce que, puisque vous êtes une leader politique, vous ne pensez pas, ce n'est pas une critique, mais de vous dire parfois, avec un peu plus de diplomatie ou peut-être de politique, justement, de savoir orienter, vous puissiez faire valoir un peu plus, finalement, vos idées, vos convictions. C'est une question. Est-ce que parfois, vous avez l'impression, des fois, oui, bon, là, j'aurais peut-être pu être un peu plus modéré sur le sujet pour justement mieux l'emporter. Ou est-ce que finalement, vous, Sandrine Rousseau, vous cultivez cette singularité, cette personnalité qui fait que, voilà, vous êtes là aussi où vous êtes, bien évidemment, pour être très clair.
Alors, vous parlez de stratégie, vous parlez de cultiver quelque chose. En fait, et peut-être est-ce ma spécificité dans le monde politique, c'est que moi, je n'utilise pas d'éléments de langage. C'est-à-dire, je n'ai pas d'agence de communication qui me travaille des éléments de langage avant un passage.
Jamais.
Non. Et en fait...
Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous réagissez toujours spontanément ?
Oui, je réagis spontanément.
Et vous êtes un électron.
Ça ne veut pas dire
aussi.
Que je n'ai pas travaillé les sujets avant.
Non.
Oui, c'est pas ce que je veux dire.
Mais ça veut dire que je n'arrive pas avec des phrases toutes faites. Avant une interview, je ne sais pas quelle phrase je vais prononcer. Jamais.
Ouais, d'accord.
Et en fait, ça pour moi, c'est fondamental. Donc, c'est en cela peut-être que je réponds à votre question. C'est que c'est fondamental parce que je crois... que dans la défiance dont nous parlons et le fait que nous ne soyons plus reconnus comme des représentants du peuple, il y a, et peut-être nous crevons-nous de cela, d'éléments de langage, d'exercices de communication politique corsetée. Moi, je ne fais pas ça. Après, ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire.
Je comprends.
Mais je ne fais pas ça et je ne le ferai pas. Vous et avez, après, libre aux gens de voter ou de ne pas voter,
c'est la démocratie. Vous avez conscience que c'est une singularité que vous cultivez. Je trouve ça extrêmement bien, vous savez pourquoi ? Parce que ça prouve que vous êtes parallèle, vous êtes en adéquation avec votre pensée.
Oui,
et
absolument.
Donc, finalement, on ne vous reprochera pas de ne pas avoir d'avoir l'utilité. Et d'ailleurs, il faut quand même bien rappeler à ceux qui nous écoutent que la vitalité d'une démocratie, ce n'est pas forcément d'être d'accord, mais d'avoir la bienveillance d'un débat qui s'oppose, et pas forcément, vous avez raison, puisque alors, nous, les journalistes, on est quand même assez servis par ça, avec des discours tout faits ou des réponses toutes faites, ou l'art de ne pas répondre à certaines questions. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais j'entendais, j'ai fait une interview, pour ne rien vous cacher, ces jours derniers, là, et on discutait avec les journalistes avant de rentrer sur le plateau, et il y a une journaliste qui me disait, on a reçu tel leader politique, dont je ne citerai évidemment pas le nom, il nous a dit, voilà, quelle va être ma punchline. Donc en fait, il savait... avant de rentrer sur le plateau, quelle était sa punchline ? Quelle est la sincérité de cette phrase prononcée sur le plateau ?
Bien sûr.
Est-ce que véritablement elle a rencontré du coup l'émotion, la sensibilité ou l'intelligence des gens de l'autre côté ? Si elle était à ce point-là préparée, permettez que j'en doute.
Voilà. Alors, vous savez, Jacques Derrida disait une chose très juste quand il parlait de la déconstruction, qu'il n'y a rien de pire que de manipuler des idées sans contenu.
Ouais.
Là, vous faites effectivement la preuve avec cette personne dont on ne citera pas le nom, que c'est des idées sans contenu. Et je trouve ça terrible dans le signal. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je dois dire, d'ailleurs, je le dis devant tout le monde, moi, je ne vous avais jamais interviewé. J'avais peut-être quelques idées préconçues. Moi, je suis ravi que vous soyez là parce qu'en fait, c'est très agréable de débattre avec vous en réalité.
Eh ben, c'est gentil, merci.
Vraiment.
Je suis très heureuse d'être ici aussi.
On vous considère, même dans vos propres amis politiques, entre guillemets, comme un électron libre et donc parfois, peut-être, vous considère-t-on comme dangereuse ? Entre guillemets, hein, bien sûr.
Ah bah, je pense qu'évidemment, vous imaginez bien qu'une personne qu'on ne peut pas contrôler...
Certains disent impossible à gérer. Mmh.
Voilà, impossible à gérer, incontrôlable.
C'est
tout
ça.
Cela est évidemment facteur de grande... de grande angoisse, je suis certain.
Ouais.
Moi, je pense que c'est le facteur de grande liberté, en réalité. Et qu'on oublie la liberté en politique. Et qu'avoir des personnalités libres, c'est aussi une manière de faire avancer le débat politique. Et j'entends la difficulté que ça puisse poser à l'un ou à l'autre. Moi, je dis que, en fait, la liberté est tout à fait fondamentale. J'appartiens quelque part d'abord aux électeurs et électrices avant d'appartenir à un parti.
Et vous ne vous opposez à aucun débat d'idées ?
Non, mais je suis...
S'il est fondé sur des arguments qui tiennent la route.
Absolument. Alors ça, moi, c'est ma limite. C'est-à-dire que je suis prête à débattre d'absolument tout le monde.
Voilà.
Sauf si on utilise des procédés sexistes, racistes ou discriminants, ce qui, évidemment, ne met pas un débat loyal, ne permet pas un débat loyal. Et je suis prête à discuter avec tout le monde, y compris des sujets les plus opposés qui soient, mais à condition
vous
qu'il y ait...
Vous acceptez, en fait, en Rousseau, la contradiction.
Absolument.
À condition qu'on ait une compétence réelle à faire valoir des arguments, même si on n'est pas d'accord avec cela. Et finalement, je repense toujours à cette phrase d'Audiard qui disait finalement, je cesse de parler aux abrutis, ça les instruit. Non, mais c'est vrai que ça, c'est inutile de parler avec des gens qui ont des poncifs et des clichés, parce que rien ne ressort de tout cela. Et c'est vrai que la pauvreté parfois du débat politique, et on le déplore aussi, et certaines émissions où on aimerait qu'il y ait un peu plus de fond, bien parfois, ça se rabote ou ça se limite justement à ces punchlines ou à ces prises de position qui sont très souvent nourries par des clichés, c'est très clair.
Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, d'être venue sur notre plateau.
Merci,
merci également à vous de continuer à nous suivre. On vous fait vivre en direct cette 6e édition de la REF et ça va continuer dans quelques instants. À tout à l'heure, merci.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.